Rouge nocturne, Verdun, de Michel Simoneau. Une réalisation de Michel Sidoroff. Avec Virginie Billedoux, Marc-Henri Boisse, Flora Brunier, Jean-Christophe Dolé, Denis Lavant, Pascal Nzonzi, Andrea Schiffer. L'interrogatoire de l'infirmière.
Vous l'avez connu ?
Il est mort en 1914.
Quand est-il né ?
En 1945.
Sido ?
Oui.
Où ?
Cela a-t-il une importance ?
Peut-être.
On ne naît nulle part. Ce n'est que progressivement que l'on construit le lieu de notre naissance. C'est seulement à notre mort que nous savons où nous sommes nés.
Je ne comprends pas.
Ce n'est rien.
Je ne comprends pas.
Peut-être est-il trop tôt. Il m'a fallu du temps.
Pourquoi ?
Du temps. Seulement du temps.
Vous ne faisiez rien ? Rien ?
Attendre. Pour écouter. Déchiffrer. Le silence est déchiffré.
Avez-vous entendu ? Vous n'avez rien entendu.
Je pose l'oreille sur les deux lèvres entrouvertes.
Vous n'avez rien entendu.
J'ai l'oreille posée sur un souffle.
Vous n'avez rien entendu.
J'ai l'oreille soulevée par les lettres qui échappent du corps. Lettre après lettre, les choses se façonnent.
Vous n'avez rien...
Des particules de terre remontent à la surface. Je sens le travail. Entre chaque lettre, un espacement. À l'endroit où le tourbillon de l'air me rend visible, le rêve du soldat. Juste entre la vie et la mort.
Écoutez-moi.
Chaque fois qu'il meurt, je quitte ses lèvres. Je contourne son visage. Je m'abaisse légèrement sur le côté. La chaleur glacée de sa joue. Contre son oreille, je lui souffle son nom. La vie alors revient, lettre après lettre, consonne après consonne, dans l'entre-deux des voyelles. Il relie les parties de son corps. Ils ont chacun droit à cette vie.
Comment voulez-vous rassembler de la cendre ? Comment voulez-vous rassembler de la boue ? L'effort ne réussit qu'à l'épaissir. Lave noircie, dure. Cassante, imprononçable.
Son corps est devenu une ombre éjectée de lui, déposée sur une paroi, matière emportée sur un mur opaque, mur entraîné dans les entrailles du sol et au-dessus projeté vers le haut. Paroi impassible, désormais sourde, désormais muette.
La création du monde.
Il a regardé l'ennemi de l'autre côté, tout près de lui. Dans la brume, il a visé. Il l'a longuement fixé. Où l'avait-il vu ? Cette mâchoire carrée comme la sienne, ce regard clair comme le sien. Il a senti une piqûre au-dessus du nez. Il savait sur qui il allait tirer. Sur Angelo, bien sûr, Ange le petit. Ça piquait fort au-dessus du nez. Dans ce temps humide, à en faire dégouliner l'air sur le front et les yeux. Il avait encore le temps. Tout le temps. Le temps de respirer, le temps de tirer. Angelo était mineur. Il minait les ponts. Angelo avait 12 ponts, à lui, lui seul, prêt à les faire sauter le cas où, au cas où l'ennemi. Mais ce jour-là, on l'avait fait sauter avant lui, ceux de l'arrière, avec l'artillerie. On ne pouvait se fier à personne, tous des salauds. Depuis que le pont a sauté, par la faute de l'artillerie, il a perdu la parole. Presque toute la parole. Je dois attendre des heures pour que, bribe par bribe, il reconstitue des mots. Je lui demande de se rappeler. Le médecin me l'a demandé. C'est écrit là, tous les jours, 3 fois. Il faut qu'il se souvienne. Quel pont ? Quel... Et il me répond. Non, il ne me répond pas. Il continue son histoire, son attente que quelqu'un vienne pour réparer le pont. Il me tient la main si fort qu'écrire met une conquête sur moi, sur lui. Il ne veut pas la lâcher, sinon il ne parle plus. Dans cette énergie tremblante qu'il me transmet, dans cette tétanie forcenée qui me secoue, je trouve les lettres. Je les assemble, je les trace.
Avez-vous gardé des lettres ?
Oui.
Vous voulez dire que vous ne les avez pas expédiées ?
Oui.
Vous vous représentez la gravité de cet aveu ? Une lettre volée à un blessé ?
À un mourant.
Mieux encore.
Cette lettre n'était adressée à personne.
Comment à personne ? Une lettre à personne ?
Oui, à personne, personne.
Je ne comprends pas.
Il n'avait plus personne à qui l'adresser.
Je ne comprends pas. Et vous avez passé du temps à l'écrire ? Pourquoi écrire, alors que tant de...
Cela m'a pris 2 jours, 2 journées entières. Tout était devenu presque inaudible. Et il est mort.
2 journées, pour une lettre inutile.
Il faut que je la lise.
Pardon ?
Il faut bien qu'elle parvienne à quelqu'un. Cela peut être vous.
Moi ?
Oui, vous. Ici, si vous le voulez. Il s'appelait Goldenstein. Hôpital militaire de Kiev, 10 décembre 1915. Il me reste quelques jours à vivre. Je ne vois déjà plus la lumière, à peine une lueur. Je vais perdre la parole.
Vous avez copié tout ça.
Je vais perdre la parole. Je suis née en 1881, dans la province de Kiev, et j'y reviens pour terminer de perdre la vie. La première fois, en 1903, quand j'ai voulu voir ma mère à Kishinev, la ville était recouverte de cadavres et de sang séché. Un des plus grands pogroms que j'ai connus. Ma mère avait survécu, le regard halluciné au fond des décombres de sa cuisine. Elle ne m'a pas reconnue. Elle est morte, une semaine plus tard, dans un hurlement. En 1914, je me suis engagée dans l'armée russe pour défendre la patrie. Il y a eu des défaites devant les Allemands, des défaites et des défaites. Cela est bien que je meure maintenant. L'anniversaire du massacre, entre les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour, les jours redoutables. Nous sommes au mois d'août. Nous entrons à Smorgon. Le soleil va disparaître. Je ne veux plus, tenez, prenez la lettre.
Ces choses ne sont pas possibles.
Je n'ai pas échappé à la dernière bataille, celle que les soldats russes ont livrée contre les milliers de soldats juifs, alors que nous combattions côte à côte, dans la boue, dans la misère, dans la mort.
Ces choses ne sont pas possibles.
Prenez la lettre, sa première et dernière lettre. Il n'avait jamais pu en écrire d'autres. Les soldats russes refusaient qu'il écrive dans la langue, le yiddish. Comment voulez-vous qu'il écrive à ses parents autrement que dans sa langue ? Il fallait un copiste. C'est ce que j'ai fait.
Ces choses sont impossibles.
Après la guerre, il a été interdit ou impossible de parler de tout cela. On a appelé cela le terrible secret de guerre.
Chaque homme est le messie des autres. Chaque homme est le messie de lui-même. Il s'élève vers le ciel et retombe en autant de parcelles que la terre a compté d'êtres humains. Chaque corps qui explose se multiplie lui-même et remplace tous les autres. Chaque soldat est une étoile qui brille, illumine, brûle et s'éteint. Des points lumineux sur l'horizon du sol. Chaque soldat s'ouvre, fleurit et jette ses flammes. À Auschwitz, les corps se consument lentement, trop lentement, dans une incandescence strictement intérieure. Et pour l'ennemi, c'est insupportable, cette lenteur. Alors il faut les aider. Il faut amener une flamme du dehors pour qu'elle attaque celle du dedans, qu'elle prenne sa place, qu'elle achève du dehors le feu intérieur, qu'elle déchire le temps. Devant les tranchées, le soldat explose dans l'instant d'un feu d'artifice. À Auschwitz, l'être humain ne se déplace plus. Il s'étale de façon immobile jusqu'à occuper la totalité de l'espace, terre, cendre, poussière, fumée. Le soldat, lui, s'écoule hors de lui-même. Il court, appelé par cette langue qu'il ne comprend pas, et c'est au moment même où il va rejoindre l'autre, lui poser la question qu'il éclate en une infinité de particules qui retombent sur place. Comme autant de clous qui le plantent dans l'impossibilité de saisir ce mot étranger au moment de l'imminence même de la résolution de l'interrogation. Devant les tranchées, le paysage se chiffonne. À Auschwitz, la peau se froisse de jour en jour.
Tu n'as rien vu? Tu n'as rien vu?
D'où viens-tu?
Tu n'as rien senti?
Ne pose pas de questions. Qui te demande de raconter?
Comment as-tu fait pour t'en sortir?
Exactement, t'en sortir.
Pourquoi es-tu parmi les survivants?
Tu es un Klein Nummer.
Tu n'as pas entendu?
Ne pose pas de questions.
Comment as-tu fait pour survivre?
Quel a été le prix de ta survie?
Y a-t-il quelqu'un qui parle allemand et qui sache jouer au bridge? Y a-t-il quelqu'un qui parle allemand et qui sache jouer au bridge? Y a-t-il quelqu'un qui parle allemand et qui sache jouer au bridge? Y a-t-il quelqu'un qui parle allemand et qui sache jouer au bridge? Y a-t-il quelqu'un qui parle allemand et qui sache jouer au bridge?
La guerre a rendu possible ce nouveau rêve des hommes. Voir en même temps le dedans et le dehors d'un corps. Contempler sur un même plan le devant, le côté, l'arrière. La guerre a inventé l'homme déplié, l'homme déroulé autour de ses angles à vif. L'homme pouvant prendre un autre homme comme miroir brisé de lui-même.
Nous avons su
que nous pouvions recevoir des images qui ne représentaient plus rien et que ces images étaient celles de nous-mêmes.
Des images de nous-mêmes en train de rêver le monde, où il n'y a plus de relief, plus d'ombre, plus de nuances.
Où les objets vivants et les objets morts se partagent l'absence de profondeur. Un espace sans horizon, dressé devant nous, éparpillé dans des flaques de couleurs qui luttent pour s'opposer, pour se déchirer.
Tenter de redessiner un univers dont nous serions tout à la fois exclus et matière.
Nous ne savions plus.
S'il fallait repeindre, décorer cet horizon vertical,
ou bien le déchirer, ou bien l'arracher pour inventer les nouvelles règles du jeu.
Matière huileuse faite de terre, de cendres, de sang, de chair, d'acier, d'os, d'arbres, brutalement dressés en une paroi sourde.
Enserrés dans cet horizon inversé, nous n'avions pas l'espace pour prendre un élan.
Nous devions réinventer des territoires, étirer les images dans nos têtes jusqu'à en faire des jardins, des villes, des montagnes, des mers.
Nous ne voulions plus des noms divins pour atteindre les choses, ni les êtres.
Nous ne voulions plus du simulacre. Le monde était entré en nous et nous étions nous-mêmes le monde.
Nous
étions la matière même du monde.
En nous réinventant nous-mêmes, nos couleurs, nos contours, nos sons, nous pouvions réinventer le monde. Chacun était devenu le multiple infini de lui-même.
Nous étions multiples. En explosant, nos corps avaient fissuré tous les modèles. Il n'y avait plus de vision réelle. Il nous fallait chacun proposer la vision miraculeuse.
Nos perceptions ne nous étaient d'aucun secours.
Il fallait penser.
Penser.
Penser. Chercher les mots.
Inventer les paroles.
Contourner tous les livres.
Ceux de nos souvenirs aussi bien que ceux du futur.
Nous ne savions plus si le monde était courbe, cassé, ou bien si c'était nous qui l'avions plié, qui l'avions brisé. Mais nous savons qu'il nous revenait de le plier, de le tordre, peut-être de le briser à nouveau pour le rendre semblable aux images qui giclaient derrière nos yeux comme les embruns au-dessus des lames.
Nous cherchions les replis cachés. Nous débusquions les angles vifs et tranchants pour en faire des armes. Nous avions perdu les mots à force de n'avoir pu prononcer l'innommable. Il nous fallait pourtant nommer tout ce que nous faisions surgir. Il fallait assembler les consonnes, les voyelles, dans des souffles acérés, brûlants, capables de mordre et déchirer l'épaisseur des sens. Il nous fallait déboîter le cadre du langage désormais éclaté comme les eaux d'un ossuaire.
Nous n'avions que faire des reliques et des reliquaires. Nous haïssions les archéologues.
Les casemates ne sont pas des cryptes. Les fours ne sont pas des hôtels. Ni les tranchées ni les camps ne sont des temples. Nous n'avons que faire des complaintes et des plaintes.
Nous cherchions le salut de l'humanité, tordre l'espace, briser l'horizon, faire voler en éclats le monde pour en retrouver la lumière.
Ce sont les corps qui ont explosé. Ce sont les faces qui se sont tordues. Ce sont les entrailles qui ont volé en éclats. Ce sont les gorges qui ont plié, qui se sont brisées, jusqu'à ce que la tête, en se penchant, recouvre, telle une ombre, la poitrine, le ventre, les bras, les mains, les jambes, les pieds, les ongles, les poils, les pores, les excréments rejetés, linceul illusoire.
Nous souhaitions un monde où le dedans serait en harmonie avec le dehors, où chaque nécessité intime offrirait sa couleur aux arbres, donnerait sa matière aux murs, aux parois, au sol, à la lumière.
Nous avons trouvé des verres brisés, aux lueurs éteintes, aux couleurs opaques. Ces morceaux de verre avaient, un jour, été des hommes. Ils sont retournés au sable, par le feu même qui les avait fait naître.
Et nous avons su alors
que chaque être humain n'était qu'une surface transparente, enserrée dans des blocs de pierre, vivante de la lumière qui en traverse la peau, tendue, par lambeaux, entre les cheminements de plomb.
Jean Jourdeuil.
Hans Bardach Edler von Schlumberg écrivit une pièce de théâtre en 13 tableaux, intitulée « Miracle de Verdun »,« Wunder um Verdun ». Lorsque, à Berlin, Paris, Londres, New York, la pièce fut représentée, immédiatement ce fut un succès mondial. Les représentations à Paris eurent lieu mise en scène Léon Moussinac au Théâtre des Bouffes du Nord. La pièce commence en visite touristique organisée par l'agence de voyage Cook. On visite les champs de bataille, la Marne, l'Argonne, Verdun. Les tombes sont fleuries, les cimetières militaires succèdent aux cimetières militaires, des blancs, des noirs. Même la fosse commune, le Massengrab, est ornée de deux couronnes, l'une allemande, l'autre française, en prévision d'une commémoration. Les États honorent leurs morts, leur construisent des monuments. Le gardien des morts, un invalide, ouvre la porte le matin, la ferme le soir, accompagne les visiteurs, leur montre ce beau cimetière où la commune des morts, allemands et français rassemblés, attend la résurrection au jour du jugement. Heureux, celui qui veille et qui garde ses habits pour ne pas avoir ce jour-là à marcher nu et à montrer son sexe. Le soldat inconnu, une trouvaille promise à un bel avenir, l'héroïsme anonyme, une absurdité linguistique. Puisqu'il n'a pas de nom, comment peut-il avoir été héroïque? Quand on n'a pas de nom, qu'est-ce que l'héroïsme? Immortalité de l'anonymat. La possibilité de l'héroïsme était refusée dans la bataille de matériel, la stratégie du hachoir, hackfleisch, autant de morts d'un côté que de l'autre. Le soldat, un inconnu, l'officier, un Don Quichotte. À la guerre comme à la guerre, quand on est mort, on est mort. Malheureux le pays qui a besoin de soldats inconnus, victimes propitiatoires sur l'autel de la technique qui ne choisit pas. Le gaz, par exemple, tue indifféremment celui qui est gazé et celui qui gaze. La technique ne choisit pas. Dans la pièce de Schlumberg, Wunder um Berlin, Wunder um Verdun, 25 ans, jour pour jour, après le déclenchement des hostilités, défilés et discours sont prévus dans plusieurs capitales, Paris, Berlin, Londres, Bruxelles, pour commémorer la guerre mondiale. Membres du gouvernement, de l'armée, du clergé, de la Chambre des députés ou du Reichstag se succèdent à la tribune, ruminant les uns leurs victoires, les autres leurs défaites. Tous sont émus. La Marseillaise, le Deutschland über alles, jamais ils n'ont eu tant de morts en otage. C'est alors que se produit, au théâtre bien sûr, un miracle à Verdun. La lune rouge se levait lorsque la résurrection commença et la girouette prenait le vent. Après un sourd remue-ménage dans la fosse commune, lentement ils sortent pour répandre la paix, l'amour, la fraternisation, noyer les images ennemies, exaltation, frayeur, incrédulité dans les chaumières. La science nous dira ce qu'il faut en penser. L'Église ne tardera pas à se prononcer. Mais la bourse chute, trop de bouches à nourrir, pas assez de grains, crise du logement, bigamie des veuves remariées. Le clergé proclame diabolique la fraternisation dans les cimetières. Partout le désordre, le chaos. Les ressuscités ne sont pas les bienvenus. Pâles, inexpressifs, Il s'en retourne dans la fosse commune. Fin de la pièce de Schlumberg. Pas de Christ avec masque à gaz et grenade, déclarant que son père n'était pas son père, ou qu'il n'était pas le fils de son père, ou que Dieu était mort et que le jugement dernier était rayé du calendrier. Rien de tout cela. Ceci pourtant, Schlumberg avait souhaité que les morts de Verdun ressuscitent en août 1939 pour le 25e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Lors des répétitions de sa pièce à Leipzig en 1930, il tombe dans la fosse d'orchestre et meurt.
La chair est infiniment immobile. La chair est multiple, recomposable à l'infini, dentelle de trous et de lumière. L'impassibilité des corps les prépare à recevoir les plaisirs extrêmes, insatiables. La chair impassible a le temps du regard, de l'odeur, du goût, du toucher. Elle est à l'extrémité de son pouvoir. La chair impassible a fusionné avec la nature et les autres chairs. La chair est impassible dans une torsion immobile, en un corps perdu, délesté de sa parole. La chair est impassible, corps désormais sans organes, puanteur sidérée, parfum pris dans une texture qui, de repli en repli, exhale son âme. Le visible se dissout dans la promesse de monde merveilleux au parfum d'aloès, de myrrhe, de cannelle, de l'huile sainte. Voyage vers une chair plastique, modulable à l'infini.
Le dernier combat de Félix Troupier.
Le blessé est un imbécile. Tout blessé est un demeuré, un simple d'esprit. Un maladroit qui se laisse coincer dans les portes d'un ascenseur, qui se laisse bloquer entre les portes du métro, entre les portes de l'autobus. Un peu vivant et un peu mort. À moitié vivant dedans et à moitié mort dehors. Un mec coincé. Quelqu'un entre deux. Un type indécis. Un type distrait qui se laisse choper là où il ne devrait pas. Un qui laisse la main droite dans le tiroir pendant qu'il le ferme de la gauche. Et qui engueule les autres parce que c'est eux les coupables. Un clown aux habits tachés de rouge qui se balade les intestins à l'air et un bras en bandoulière. Un comique de la vie. Un rigolo du va-t-en-guerre. Il trébuche et tombe le nez dans la poussière. Il dérape, s'étale dans la boue, le derrière en l'air, les bras écartés, enfin s'il lui en reste. Ou bien il explose, et hop, il retombe en confetti, une pluie d'étoiles. Et pour le 14 juillet, on lui fait un feu d'artifice. Et par terre, il soliloque, il monologue. « Maman, maman !» Ça, c'est de l'humour, du vrai, du saignant. Vous voyez d'ici une mère débarquer sur le champ de bataille, en plein dans la mitraille. « Oui, mon petit, j'arrive. Pleure pas, j'arrive. » Vous voyez d'ici l'effet, un truc de môme pour un guerrier viril, parti fièrement se sacrifier pour la mère patrie. Je l'ai dit, le blessé est un type hésitant. Toujours entre deux. Il ne s'est pas choisi entre eux, sa maman et la mère patrie. Vous l'entendez appeler « Oh, mère patrie, mère patrie !» Ridicule. Et la mère patrie d'accourir en larmes, ramenant le vieux nounours en lambeaux du petit pour lui ôter son angoisse. Et les autres soldats d'applaudir l'arrivée de la mère, courant entre deux rangées d'uniformes hilares, se précipitant, tenant d'une main ferme la hampe du drapeau flottant au vent. Elle court vers l'ascenseur. Dedans, des gens trépignent, impatients, ils en ont marre. Ils appuient sur tous les boutons pour que ça démarre. Mais qu'est-ce que c'est que ce matériel? Toujours en panne quand on en a besoin. Ah, le matériel d'avant-guerre, c'était quand même plus solide, plus fiable.
Et ce type-là, coincé, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'il choisisse, dehors ou dedans, mais qu'il nous laisse grimper. On n'a pas que ça à faire. Alors, la mère glisse le manche du drapeau entre les portes, comme un levier. Elle veut écarter les pans. Et le clown crie toujours avec son nez rouge et son masque blanc, la tête dehors et les pieds dedans. Et elle y arrive, à force d'amour, à force d'y croire. Les portes s'écartent et elle tire le fils dehors. Elle crie de joie, mais manque de bol, c'est le mauvais côté. Dehors, on est mort. C'est dedans qu'elle aurait dû le pousser, avec les autres, dans l'ascenseur. Mais non, l'égoïsme d'une mère patrie a tout fait à l'envers. Elle a emmené le fils avec elle, pour elle, du mauvais côté. Et crac. Fini. L'ascenseur monte, le métro part, l'autobus roule. Et l'autre, par terre, pour une dernière pause comique, invraisemblable, un pantin qui a perdu ses clous et ses ressorts. Et la mère remballe le drapeau, dont il ne lui reste qu'une moitié dans la main, l'autre est dans l'ascenseur. Ça aussi, c'est comique. Elle traîne derrière elle le tissu noir de terre et rougi du sang du nez du clown, que tout le monde sait que ce n'est pas du sang, mais de la teinture du drapeau qui a traîné dans la boue. Mais le clown a fini son numéro. Terminé. Il faut attendre le prochain autobus pour recommencer. De toute manière, il est tard, les gens sont rentrés chez eux, ils sont partis manger. Il n'y a plus personne pour se marrer. Il peut continuer à faire le mort, ça repose, jusqu'à demain. Il faudra penser à la quête avant la fin du numéro, à tendre la main. Enfin, s'il en reste. Sinon, il faudra demander à un autre soldat de le faire avec une main trouvée par terre, une en pas trop mauvais état. Ah, bonne idée, ça serait encore plus drôle.
Pouvoir écrire sur ma propre peau étalée devant moi. Faire de ma chair la matière même de ma mémoire indélébile. Mélanger la chair et la terre pour en sculpter une matière nouvelle où la nature et moi ne faisons qu'un au prix de ma mort. Chaque être est fait d'une infinité de parcelles, jusqu'à la poussière de cendres, jusqu'à la volute de fumée qui se mélange à l'air ou peut-être jusqu'à cet œil déposé là seul, libre jusqu'à être aveuglé de sa solitude, libre jusqu'à pouvoir admirer le corps dont il provient, dispersé là autour de lui, livré segment par segment à toute la curiosité du monde.
Un jour, on avait pris une tranchée à l'ennemi. Ils se sont sauvés comme des lapins. On a pu pisser debout, dehors. Les pieds dans la boue, mais les yeux dans le ciel. Longtemps. Le temps de plusieurs vies. En pissant, j'ai nettoyé 3 crânes. Je les ai emmenés. C'était le destin. On a posé les 3 crânes à l'entrée de la casemate, au-dessus. Médor, Cador et Totor. Petit Louis nous avait promis qu'ils aboieraient pour prévenir, au cas où. On lui a fait plaisir à Petit Louis, il lui manquait un peu de cervelle. C'est triste à dire, mais on a bien rigolé. Pas longtemps. Le temps que le gradé les aperçoive. Pas longtemps. « On rigole pas avec ça !» Il gueulait. Il avait la trouille. Il avait beau gueuler, il était vert. « Et c'est même peut-être des crânes de boche. Des boches ici, au-dessus de nos têtes !» On avait envie de rigoler tellement il avait les foies. Je lui aurais bien proposé de fusiller les 3 crânes, sans jugement tout de suite, là. Mais il ne criait plus. Il a ajouté lentement « C'est peut-être même des Juifs !» On a tous regardé Jaco. « Tous les 3 ?» a demandé Jaco. « Vous exagérez, capitaine, c'est pas possible, il y a déjà moi. Alors 3 autres d'un coup, vous pensez impossible. On n'est pas assez nombreux. » Le gradé, il a pas aimé. J'ai cru qu'il allait le descendre. Jaco, il s'est pas dégonflé. Si vous aimez pas, je peux rentrer chez moi, suffit de leur dire derrière. Vous téléphonez et ils me libèrent. Si on ne faisait rien, ça allait mal finir pour Jaco. Alors je me suis mis à rigoler. Mais il fallait bien. Au début, j'ai eu du mal, personne ne suivait. Le silence. Il ne fallait pas que je m'arrête, sinon c'était moi qui étais foutu. Et il y en a un qui a compris. Il s'est mis à se marrer aussi. Et les autres ont suivi. Sauf Petit Louis.
Petit Louis s'est précipité pour prendre ses crânes au-dessus de l'entrée de l'abri. À peine sorti, le front, ça a claqué. Le corps a reculé, plaqué contre la paroi. Il a glissé doucement. Il a fini assis. Il est resté comme ça. Assis. On n'a plus retrouvé sa tête. On avait tous du petit Louis sur nous. On est resté comme ça, cloué. Personne ne nous est bougé parce que, pour remuer, il aurait fallu s'essuyer, enlever petit Louis de nous, s'en débarrasser, le quitter à peine parti. Alors, Jaco s'est mis à chanter, un truc à lui, qu'il ramenait de loin, plus triste que petit Louis sans sa tête, une chanson pour les morts. Pour ses morts à lui, mais pour les nôtres aussi. Il nous l'a offerte, il nous l'a dit, après. Après, je veux dire, tout de suite après, quand Jaco s'est arrêté de chanter. On n'a rien entendu. Rien. Et là, heureusement, pour nous tirer de là, pour nous sauver de ce silence dur comme une pierre, une patate nous est tombée dessus, à 10 mètres. Une giclée de boue et de pierraille. En face, ils avaient dû croire que la sortie de petit Louis, c'était le début d'une attaque. Pourtant, c'était la trêve, comme tous les jours, à la même heure. Alors là, on l'a vraiment entendu, la gueulante du gradé. On a sauté sur nos armes. On est parti se battre. Mais avant, j'ai sauté sur un des crânes. Je l'ai caché. Je vous le présente. On l'appelle petit Louis. Une nuit, on était à l'arrière, on s'était cuité comme jamais. J'avais sorti petit Louis pour qu'il fasse la fête avec nous. Jaco s'est mis à hurler qu'il voulait aller chercher les morceaux du corps. Il devait les ramasser. Il devait les retrouver tous, chacun, pour les ensevelir selon les rites. Les rites, j'ai jamais su lesquels, mais il y tenait, le Jaco. Il voulait aller dans la fameuse tranchée aux trois crânes que les Boches nous avaient déjà pris, qu'on avait repris et qu'ils avaient repris. C'est eux qui l'avaient maintenant. Il devait être assis sur un feuilleté de cadavres. Une couche de français, une couche de boche. Une couche de français, une couche de boche. Une rangée d'anglais. Une croûte d'africain. Une pincée d'hindou. Un millefeuille où Dieu ne reconnaîtrait plus les siens. Alors vous pensez, Jaco, avec tout ce qu'il avait dans le nez en plus, il l'aurait vu triple, son millefeuille. On a dû le ceinturer.
Au début de chaque attaque, il ne se protégeait pas. Il ne se mettait pas à l'abri. Juste à la sortie de la casemate, il s'adossait à la paroi et fixait la tranchée. Le creux dans son enfilement, dans sa perspective au cordeau. La vision gênée par les silhouettes des soldats au corps tendu vers l'ennemi. Appuyé sur le mur de terre à y disparaître. Il cherchait à fixer ces images dans sa tête. Il voulait devenir. Se rappeler dès maintenant, pour conjurer le présent, pour conjurer la mort, rester immobile, fixer chaque objet, fixer chaque homme, fixer chaque cadavre, fixer ces lambeaux de terre et de chair découpés dans la lumière du ciel, dans cette fraction de seconde où ils sont entre le haut et le bas, ce fragment de temps où terre et chair ne sont pas encore mêlés. Pas encore, mais suspendu, là. Instant de sérénité, protection contre l'événement inexorable, contre l'événement. Mais aussitôt l'attaque finie, il avait tout oublié.
Rien. Alors, il pleurait.
Sur ses yeux inutiles, il les cognait, à poing fermé, comme sur un tambour. Et il se retournait dans la casemate, effondré, replié, tassé sur lui-même, les paupières serrées à en éclater la peau, faire disparaître ces lueurs rouges à l'intérieur de la tête, qu'il n'arrivait pas à faire devenir des images, qui ne devenaient pas les images du souvenir.
Alors attendre? Attendre la prochaine attaque. Attendre la prochaine.
À lui, on ne lui disait rien. Personne n'osait, personne. Aucun officier. Jusqu'au jour où le lieutenant Cottenberg a été tué. Un autre l'a remplacé, un autre. Celui-là l'a insulté, frappé, lui a lancé des coups de pied, des coups, des coups. Rien n'y a fait. Il a ordonné qu'on le pousse dehors, qu'on lui donne un fusil, qu'on le sorte de la tranchée. On lui a donné un fusil, on l'a poussé dehors. Il est resté debout, immobile, un arbre, une montagne. Et il a regardé le ciel, fixement, fixement.
Il n'a rien prononcé, rien.
Le lieutenant a dit, tirez-lui dans les pieds, dans les pieds. Personne n'a tiré. Personne. Le silence. Le silence. En face non plus, rien. Et il s'est mis à crier. Il faut d'abord que je retrouve la main. D'abord la main. Parce que sans la main, le reste sert à rien. À rien. J'y vais. Attendez-moi! Attendez-moi! Il criait en s'éloignant.
Toujours le silence. Toujours le silence.
Pas un coup de fusil. Il ne s'est pas retourné. Il criait. D'abord la main. Il ne se retournait pas. Pas pour longtemps, je reviens. On voulait fermer les yeux pour ne pas le voir crever. Pas le voir. On pouvait pas, non, on pouvait pas. Il est parti. En biais. Vers la gauche. Il s'enfonçait dans les trous et en ressortait. Un radeau dans la houle. Un navire se joint des lames profondes. Et on l'a plus vu. Plus vu du tout. Et rien. Plus rien, plus jamais. Avec sa main, il n'est pas revenu. Et on n'a rien entendu.
Pas un coup de feu, de nulle part. Non, de nulle part.
C'était Rouge Nocturne, Verdun, de Michel Simoneau. Avec Virginie Billedoux, Marc-Henri Boisse, Flora Brunier, Jean-Christophe Dollet, Denis Lavant, Pascal Nzonzi, Andrea Schiffer. Musique de Luigi Nono. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son Yves Baudry et Sébastien Labarre. Sonorisation, Cédric Châtelu. Lumière, Robert Gélard. Assistante de réalisation, Julie Béressy. Réalisation, Michel Sidoroff.